Vous écoutez
RMC.
Monsieur Fred Armel est dans l'after et dans la place. Bonsoir Fredo.
Quel grand joueur. Oh, la Ticos.
Mais oui, ce fut un joueur.
Bah excusez-moi, enfin, c'était le faux numéro 9 de la sélection espagnole à un euro. Il a marqué des buts importants. Il a marqué notamment un tir au but très important. Ça a été un grand joueur, Fabrice.
Ça a été, on parle au passé. Ouais,
ouais. Après, on vieillit tous, hein.
Bon, mais attends, il est pas si vieux, il a 32 ans. Fred?
Oui, mais, non, enfin, mais il a commencé il a très jeune. Et il a commencé très, très jeune.
Il a raison.
Il a des kilomètres au compteur.
Il a raison, Jonathan. Mais il y a un truc, c'est que, à un moment, là, les gens sont un peu durs avec lui, mais quand il aura terminé sa carrière, on regardera son palmarès.
Non, mais c'est un monstre,
Ça, il n'y a pas doute là-dessus. Mais là, ce qu'il fait à Monaco, c'est justement parce qu'on a en tête ce qu'il a fait auparavant. C'est pour ça qu'on est très sûr de ses performances.
C'est comme quand tu vas voir, je ne sais pas, Bob Dylan en concert aujourd'hui. Ben, c'est, voilà.
Tout le monde n'est pas Mick Jagger.
Oui, mais bon.
Pourquoi Bob Dylan, c'est terrible, quoi. Ça pourrait vachement baisser.
Tout le monde prend pas des produits, hein, tu sais, enfin, aussi, comme Mick Jagger.
Ouais, pour moi, Bob Dylan, c'est trop moderne, quoi. Tu vois, moi, c'est pas la musique que j'écoute, mais. Mais ouais. Pourquoi ça a vachement baissé, Bob Dylan, ça?
Ah, c'est un peu tristoun.
Bah, tu vas le voir sur scène, c'est une catastrophe.
C'est un peu tristoun.
C'est terrible.
J'ai dit, tout le monde n'est pas Mick Jagger. Et Mick Jagger,
voilà, quand t'as été une légende et que tu t'entêtes à continuer, ben, c'est dur, quoi.
C'est ça.
Allez.
Tout le monde ne meurt pas jeune comme Gérard Philippe.
Gérard Philippe,
parce que moi c'est l'idole absolue.
James Dean, tout ça.
Kurt Cobain, Gérard Philippe, bravo Fred.
Gérard Philippe, c'est l'idole absolue. Et je vais me permettre, je viens de terminer l'œuvre, le livre extraordinaire de Jérôme Garcin, Le dernier hiver du Cid. C'est extraordinaire. Ce sont les derniers jours de Gérard Philippe. Il n'y a pas que le foot dans la vie.
D'accord.
Et vous allez, enfin, c'est un livre. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu depuis très très longtemps.
Redis le titre.
Le dernier hiver du Cid.
D'accord, de Jérôme Garcin.
Jérôme Garcin,
voilà,
énorme journaliste, énorme écrivain. Et c'est chez Gallimard et c'est fabuleux, quoi. C'est de la littérature que j'aime et plein de références culturelles que j'aime. Le site, tout ça. Enfin, voilà.
Fred,
le Barça.
Voilà, un petit événement, un gros événement en Liga. Le Barça a été battu 2-0 par Valence. Certes, le Barça avec un grand gardien, mais un Barça sans idée, Fred.
Bah, franchement, s'il n'y avait pas Ter Stegen ce soir, on parlerait d'un 3-4-0, quoi.
Ouais.
Vraiment. Parce que Ter Stegen, déjà, il arrête un pénalty à 0-0. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort.
Bah ouais. Ter Stegen et l'arbitre sont très forts.
Alors après, attends, je vais pas. Alors, puisque tu évoques ça, l'arbitre, Ridwan Mansalo, à un moment, il y a un contre pour Valence, mais tu sens que ça va se terminer en but. Il y a une faute, notamment Doumtiti qui prend un carton, il laisse pas l'avantage, et après, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Il met ses mains en disant pardon au joueur. Donc, au moins un arbitre qui reconnaît sa connerie, franchement, moi, c'est respect.
Okay.
Tu vois, ce Barça, rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière. Est-ce que vous avez écouté la semaine dernière? Qu'est-ce que je disais après la victoire du Barça contre Grenade? Que le test, c'était quand?
Valence.
Voilà.
Juste avant de te laisser débuter, Fred, bon, je te fais une petite référence, mais est-ce que ce serait pas le dernier hiver du grand Barça?
Oh, magnifique. Bravo.
Merci.
Écoute, il avait noté.
Non, comme
mais,
ça, voilà.
Mais non, mais je tire pas de conclusion hâtive, mais le problème n'était pas Valverde. Le problème, c'est Valverde, l'entraîneur. Le problème, c'est l'effectif. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un Barça qui tient grâce au but de Messi et aux arrêts de Ter Stegen. Et aujourd'hui, Messi a fait un très mauvais match. Vraiment très mauvais.
Ouais.
Et Ter Stegen peut pas tout faire tout seul. Donc, en plus, tactiquement, moi, je comprends pas trop ce que fait Setién. Alors, en fait, Setién, ce qu'il fait.
Il a dit, il va y avoir du boulot.
Mais pourquoi il met l'anglais sur le banc? Je comprends pas.
Bah, moi non plus, je comprends pas. Parce que Umtiti fait un match catastrophique. Vous avez vu le petit sombrero qui se prend là? Setién fait du populisme footballistique. C'est-à-dire, il joue comme le public demande. Sauf que c'est pas le public qui demande. Le public veut jouer comme avec Xavi et Iniesta. Sauf qu'il n'y a plus Xavi et Iniesta. Mmh. Franchement, le Barça a eu 70% de possession, a fait encore 800 passes, et c'était que des passes quasiment horizontales. Et c'est uniquement quand le Barça a ouvert le score par Maxi Gomez que le Barça jouait un petit peu plus vertical. Je pense sincèrement, et Dieu sait si j'ai aimé ce football parce qu'il a permis à mon deuxième pays d'Espagne de gagner 3 titres comme le champion du monde et 2 euros, mais je pense que le style tiki-taka de passes horizontales est terminé. Et pour en avoir parlé avec une personne du staff de Zizou, aujourd'hui on est quand même beaucoup plus dans un football de transition très vertical.
Ah ouais.
On voit par exemple le succès de Liverpool.
Il faut savoir faire les deux.
Ben oui, mais c'est-à-dire que le football, les passes à outrance, le football horizontal à outrance, qui a eu son succès à un moment, hein, rappelez-vous, avec l'Espagne, qui était la colonne vertébrale du Barça, hein, aujourd'hui ne marche plus. Donc, tu dis que c'est Bob Dylan est dépassé, bah, le Tiki-Taka est dépassé. Ouais, tu vois, c'est un jeu de vieux, on va dire.
Ouais. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a deux semaines, je t'avais dit que j'ai l'impression, moi, qu'en fait, ce Barça-là, avec ces joueurs-là, en tout cas avec ces anciens cadres, il est même plus entraînable. Dans le sens où tu pourras mettre. C'est eux qui décident, en fait. C'est eux qui décident la façon dont ils veulent jouer. Les supporters qui ont toujours cette fameuse image du grand Barça qui doit jouer en possession. Mais ils ont du mal à se réinventer, tout simplement. Et ça arrive à toutes les grandes équipes.
Hein. Oui, bien sûr. Mais sauf que le problème, c'est que la période est un peu longue. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le Real, par exemple, la crise, elle a duré un an. Avec une saison catastrophique la saison dernière, là, ça va mieux. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de révolution possible au Barça. Et Valence a totalement mérité sa victoire. Vraiment un très bon Valence avec, et je vais me permettre, puisqu'on n'est pas loin de l'Euro, le match que fait Kondogbia, la manière dont il a mangé Messi, oui. Mais c'est impressionnant.
Mais les deux, Coquelin aussi fait un bon match. Hein.
Coquelin aussi. Ouais. Moi, j'aime particulièrement Kondogbia et je trouve que son apport physique allié avec une vraie technique de sortie de balle, ben, il a été très bon ce soir. À un moment, il a bouffé Messi, enfin, c'était impressionnant. Donc, c'était un match très intéressant de Valence, qui est un candidat, faut pas oublier, hein, Valence, qui tombe contre l'Atalanta.
Candidat au quart de finale. Mais attention, l'Atalanta, c'est impressionnant, Fred. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Simonet. C'est imposé 7-0 sur le terrain de Torino ce soir.
Ça va être un super match.
C'est quoi, c'est l'affiche que certains ne voulaient pas forcément voir. Moi, c'est presque l'affiche que j'ai envie de voir.
C'est-à-dire que c'est une affiche qui a l'air assez équilibrée.
Hyper ouverte.
Et moi, je dois reconnaître que j'étais le premier à dire oui, c'est la DES, quelqu'un que j'ai connu hein, du temps du Real Madrid.
Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas convaincu.
Moi, je l'aime bien, c'est un mec très sympathique.
L'homme du président.
Mais c'est la DES, en fait, il met un petit peu, il est pas dogmatique, il est pragmatique, il met un petit peu de bon sens, et puis il a pas essayé de braquer les joueurs contre l'ancien entraîneur et tout ça. Il a dit je suis là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. J'ai pas choisi, je suis là, et c'est intelligent. Mais, pour terminer sur le Barça, il y a un vrai problème.
Griezmann?
Il a mis un doublé la semaine dernière.
Non, mais Fred, on s'en fout que tu fasses insulter. Fredo. Excuse-moi, on en parle quasiment tous les week-ends, c'est une réalité, mais là, c'est de pire en pire, j'ai l'impression, attends, Kevin.
Alors, j'ai calculé les passes. Zéro tir. J'ai calculé les passes de Messi à Griezmann au dernier match, c'était 3. Vous savez combien de passes a fait Messi? Le Barça a fait 800 passes. Combien de passes de Messi à Griezmann aujourd'hui? Une.
Une seule passe. Alors qu'ils sont ensemble, côte à côte, ouais.
Voilà. Et là, franchement, enfin, côte à côte, c'est un système souvent qui est en 4-3-3, parce que ce soir c'était quand même très clair. Messi dans l'axe, Griezmann à gauche, Ansu Fati à droite. Mais moi, je le comprends. Griezmann en coupe, il a joué en point dans un système avec trois attaquants.
Il met deux buts.
Il a marqué deux buts. Pourquoi et il n'y avait pas Messi qui n'était pas convoqué pour ce match. Pourquoi on n'essaye pas de. Tu vois, parce que quand il y a Suarez, Messi joue à droite.
C'est ce que je te disais, Fred. Alors attention, je ne dis pas que Messi est un problème pour cette équipe. Mais.
Tu auras des problèmes, parce que attention.
Le correspondant Madrid ne se sent pas responsable des commentaires du consultant parisien. Ouais.
Tu devrais faire un communiqué également, Fred, ce soir.
Fred, je ne dis pas ça. Je dis juste que Messi, dans sa manière de jouer, bien sûr qu'il fait de l'ombre à Griezmann. Et aujourd'hui, mais c'est triste de voir Antoine Griezmann comme ça.
Ah, mais moi ça me fend le cœur.
Moi, j'ai envie d'aller de peut-être trouver une explication sans tomber dans la théorie du complot que Messi ne veut absolument
pas.
Non,
c'est pas un complot.
Je pense juste
personne
qu'en fait.
A parlé de complot.
Ouais, c'est ce que. Ouais, non. Mais non, mais je fais réponse
non, mais c'est
à
un
ce,
problème
à ce
relationnel.
Fred nous dit, parle sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, c'est tout simplement que les deux joueurs ont exactement le même profil et qu'ils se marchent sur les pieds. Et que je pense que les deux soient extrêmement compatibles.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
Pas beaucoup de complémentarité.
Et pour pas s'entendre avec Griezmann, faut vraiment le chercher parce que lui fait beaucoup d'efforts. Et les grands joueurs, on dit toujours que les grands joueurs jouent bien ensemble. Et moi, je pense, et ça fait 30 ans que je joue à du foot et 26 ans que je suis en Espagne, donc j'ai vu quelques matchs, les grands joueurs s'entendent. Mais il faut que chacun y mette de la bonne volonté. Et j'ai l'impression que dans cette équipe, tout le monde met pas de la bonne volonté.
Ouais, c'est très possible. Tiens, précision, Fred Kondogbia, il sera pas à l'Euro, hein, puisqu'il a choisi la République centrafricaine.
Oui, c'est vrai,
Il est international.
Et c'est quand même très dommage. Oui, tu as tout à fait raison, je reconnais cette erreur. C'est vrai, parce que ça s'est passé il y a un an à peu près, non?
Ouais, c'est ça. Il a quatre sélections, avec la Centrafrique.
C'est vrai. Et c'est dommage pour, c'est un, avec tout le respect pour Geoffrey Kondogbia, c'est un peu un choix par défaut et c'est dommage parce que vu ce qui se passe en équipe de France avec nos milieux de terrain en ce moment, quand je le vois ce soir, je me dis waouh.
T'as raison. Fred, demain, le 15e de Liga, Valladolid accueille le Real. Qui peut prendre le pouvoir de la Liga? Je sais pas, hein, ça devrait aller. Le groupe a été donné par Zidane en fin de soirée.
Vinicius n'est pas là. Valladolid a fait match nul à Bernabéu en début de saison. Hein.
Ouais.
C'était pas le même Real. Hein. Mais. C'est les échos que j'ai pu en avoir au sein du staff technique du Real, c'est que c'est un match qu'ils craignent énormément.
Pourquoi c'est pas facile de jouer.
Parce qu'en Espagne, tout est compliqué et que Valladolid est une équipe très difficile à bouger, tactiquement très bien entraînée par un ancien joueur Sergio, ancien joueur de l'Espagnol notamment, et que cette équipe, elle a privé du Real de 2 points en égalisant à la dernière minute.
C'est le Angers espagnol, t'es en train de nous dire.
Alors Angers, c'est vrai que c'est une équipe historique, mais Valladolid, c'est pas n'importe qui non plus dans le football espagnol.
Mais Angers non plus.
Non mais
c'est pour ça. Mais c'est la raison pour laquelle je dis. Dans ce que tu me dis. C'est la raison. Attends, Raymond Coppa, excuse-moi. Enfin, c'est un ch'ti aussi. Non, je critique pas Angers. Mais c'est à dire que dans le football moderne, on va dire, Valladolid, c'est pas n'importe qui dans le football espagnol.
Mais ce que je me dis, c'est que c'est une équipe comme Angers, sérieuse, qui est disciplinée, qui est collectivement organisée, qui est capable de poser des problèmes aux grosses équipes du championnat. Donc c'est le Angers un petit peu.
Donc si t'es pas à fond, tu mets pas Valladolid, quoi.
C'est ça.
Et c'est vrai que le Real a pas souvent profité des faux pas du Real cette saison. Là, ça peut être vraiment.
Après des nouvelles de Hazard, Bale notamment. Vinicius n'est pas dans le groupe. Hein.
Il n'est pas dans le groupe parce que Zidane fait des choix et il a raison. Et que Vinicius, il s'entraîne pas bien.
Fred, petite question. Tu les sens comment, toi, le Real à l'aube du printemps européen là? Tu sens qu'ils sont la dynamique. C'est comment, outre les résultats, l'ambiance, comment Zidane a son groupe en main? Est-ce que t'es optimiste pour les huitièmes là?
Très optimiste.
Real City, les gars.
Pourquoi?
Le 26 février. Hein. Real Manchester City.
Parce que le système défensif du Real, il est très 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 fort. Et qu'en Ligue des Champions, c'est ce qui compte.
D'accord.
Le Barça a la chance également, a la chance. On verra d'affronter le Napoli.
Ouais, hein, ça devrait passer contre Naples quand même. Franchement.
Et Valence, Atalanta, on va se régaler. Et Atlético de Madrid, Liverpool, sera beaucoup plus compliqué.
L'Atlético.
Très vite, Fred. Vas-y.
Très vite. Vu comment joue Valence, vu comment joue Séville ce soir, très bon match contre Grenade 2-0 avec une première période magnifique.
Ouais, pas sûr qu'il fasse top 4.
Real, Barça, Valence, Séville. L'Atlético, s'il continue dans cette logique-là,
n'est
pas sûr d'être dans les 4 premiers de jouer.
Je peux me mouiller sur un truc tout court. J'adore les deux équipes, hein, mais j'ai bien peur qu'il y ait une possibilité que Atlético-Liverpool soit des matchs qui soient très chiants à regarder.
C'est possible.
L'Atlético sait faire des jouets, ça c'est clair.
Voilà.
Merci Fred.
Adios, chicos.
Excellente soirée. Merci à toi. Toi. L'after est là jusqu'à minuit. Simone Rovera arrive dans un instant, bien sûr. Et Paulo Breitner aussi. Tiens, on va commencer par Simone. On va commencer par Simone Rovera qui était avec nous. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Bonjour Simone.
Voilà. Salut Simone.
Qu'est-ce qu'il est en forme, Simone?
Quelle entrée légendaire.
Mais je vous écoutais vraiment, déjà parce que j'écoute toujours quand il y a Frédéric à l'antenne, donc c'est normal.
Ah bon, nous on plus, ouais, c'est ça. Ouais.
Vous avez dit une vérité, c'est que Atalanta Valence va être la surprise des huitièmes de finale. Les matchs les plus intéressants, les matchs plus explosifs, les matchs où au début personne ne voulait voir. Mais je sais que la soirée où il y a Atalanta-Valence...
19 février.
Tu sais pourquoi je suis content, Simone? C'est parce que ça fait des années que je te gave un peu avec, mais là, je pense que c'est l'année où Papou Gomez va éclater aux yeux de tout le monde sur la scène européenne.
Ok.
Josip Iličić, ce soir a été quelque chose de
7-0. Alors, j'avais pas prévu parler d'Atalanta parce qu'on en parle souvent, mais bon, là, on est un peu obligé de le faire.
Ah bah oui.
Déplacement sur le terrain du Torino pour l'Atalanta Bergame, dont on loue non seulement les résultats, mais aussi le fond de jeu.
Et l'entraîneur.
Et l'entraîneur, bien sûr. Victoire, soit
le 9e.
7-0. Doublé de Muriel, triplé d'Ilicic, Zapata et Gosens.
Mais comment c'est possible? 7-0, c'est énorme.
Quand t'as un coach qui a des idées, quand t'as un coach qui tire le meilleur de ses joueurs, voilà, ça fait ça.
C'est magnifique.
Non, mais attends, surtout qu'en face, t'as un coach, Mazzarri, qui est connu pour être plutôt défensif, qui défend très bien, qui jamais casse autant de buts. Mais là, je vous invite à regarder, à chercher n'importe où les buts. Il y a des chefs-d'œuvre. Mais vraiment.
Non, mais le match en entier, Simone. Faut regarder le match en entier.
Moi, je vais regarder ce match.
Ouais, le match à l'entier, mais peut-être quelqu'un n'a pas le temps, c'est minuit presque. Donc, regardez que le but. Les premiers buts d'Ilicic, il y a une récupération de balles de Palomino qui c'est légendaire. C'est vraiment, c'est une tacle incroyable, une défenseur qui se retrouve, je ne sais pas comment, à côté de la surface adverse, récupère un ballon et fait une passe décisive à l'attaquant. C'est extraordinaire. Le 4-0 de Lichy, c'est un coup franc battu soudain, en laissant Sirigu totalement surpris, de 45 mètres, 50 mètres, ouais, une chose extraordinaire, un lob magnifique. Une petite pensée pour Sirigu qui a pris 7 buts. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois dans sa vie. Il avait encaissé 7 buts dans une Palerme-Udinese il y a beaucoup d'années, quand Alexis Sanchez avait fait un quadruplé, imaginez. Et, mais c'était une poème, une symphonie, je sais pas, c'était une chef-d'œuvre, vraiment.
C'est match. Non, mais c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on aura soit Valence, soit l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. Après, pourquoi pas, tout est possible. Ouais. Mais ce match-là, effectivement, le 19 février prochain, on a envie de le regarder.
À fond pour voir l'Atalanta, hein, parce que Gasperini, tout le monde a pensé que, tu vois, quand il était à l'Inter, tout le monde s'est un peu raillé parce que ça n'a pas marché l'Inter, mais c'est un putain de bon entraîneur, quoi. Franchement.
C'est simple, t'as le choix, là. Ce soir-là, le même soir, t'as Atalanta-Valence à 21h. 19 février et Tottenham Leipzig.
Atalanta Valence de loin. Atalanta Valence, il n'y a pas photo.
Ah, tu vois, il est plus Première Ligue.
Non, non, moi je vais voir l'Atalanta, c'est l'Ajax 2020. En tout cas, je l'espère pour eux.
Voilà, Simonet, la Juve. La Juve demain joue face à un cancre. Joue face au Napoli. 27 points d'écart entre ces deux équipes. Est-ce que la Juve doit craindre le Napoli demain?
Une catastrophe, le Napoli.
Bah, écoute, Naples, c'est une ville spéciale dans le foot italien. C'est une ville incroyable. C'est une ville qui vit pour le football. Et cette victoire en quart de finale des Coupes d'Italie face à la Lazio qui était énormément lancée, je ne dis pas qu'il va être une révolution. Mais est-ce que ce n'est pas été l'étincelle qui peut apporter quelque chose de nouveau pour les matchs de demain soir? Et si demain soir, Napoli, ça n'arrivera pas parce que la Juve est supérieure, mais si demain soir, Napoli sort de ce match avec un bon résultat face à la Juve, je peux vous dire que pour l'enthousiasme qu'est capable de faire vivre cette équipe, à cette ville, à ces stades, et tous ensemble, est-ce que ça peut être le nouveau départ d'une saison? Oui. Après, j'y crois pas. Vraiment. Ouais. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est dans les meilleurs moments de sa aventure italienne, parce que la Juve est en train de trouver une solidité, parce que la Juve a retrouvé celui qui, pour moi, va être l'homme de la deuxième partie des saisons, qui est Rodrigo Betancourt, milieu de terrain, qui progresse semaine après semaine. Là, il rentre après trois
semaines. C'est incroyable, ce qu'il fait. Tu sais, Simonet, quand il arrive à la Juve, il arrive parce qu'en fait, quand Tevez retourne à Boca Junior, la Juve demande d'avoir une option de rachat automatique sur Betancourt. Et je t'assure que quand il part de Boca, beaucoup de gens se disent la Juve c'est des tarés parce que personne ne voyait, alors si des qualités techniques évidentes, si, mais beau, un mental très friable, voilà, pas la carrure pour faire ce qu'il fait en Europe, et c'est une vraie surprise de le voir à ce niveau-là, hein.
Bah, lui il arrive un peu comme remplaçant, on peut dire, de Pjanic, c'est-à-dire celui qui doit jouer devant la défense. Là il s'impose comme milieu relayeur du côté droit. Sarri l'a fait jouer parfois même numéro 10, un peu plus avancé.
Il peut
de lui, ça l'intéresse,
il prend la place de Rabiot, décisive. Quoi.
Bah, Rabiot aujourd'hui, pour moi, c'est le titulaire indiscutable à gauche. On verra demain. Très si bien. Demain il est ça encore avance. Titulaire, ce serait son 8e match titulaire d'affilée. Oui. Ça serait sensationnel pour moi.
Attention, Kurzawa arrive. Simonet, justement, transition faite par Jonathan. Ouh. Alors, on parle avec insistance nous aussi d'un échange de Chilio Kurzawa. C'est quoi tes infos? Alors, Sarri a bien parlé aujourd'hui. Il n'a pas l'air enthousiaste à l'idée d'accueillir Kurzawa. En tout cas, il a dit, je le connais pas très bien.
il a fait comprendre qu'il a vu jouer à la télé. Après, il connaît pas l'homme, il connaît pas au-delà de ce qu'il a pu voir vraiment sur un match. Il connaît pas les personnages, il connaît pas qu'est-ce que ça portait dans un groupe. Bah, après ça, ouf, heureusement qu'il le connaît pas. Mais pour moi, pour parler de l'opération, pour moi, ça va se faire, il n'y a pas de doute. C'est une opération qui, à niveau comptable, est beaucoup plus importante qu'à niveau sportif. À niveau sportif, les deux clubs n'ont rien à perdre à faire cet échange.
Est-ce qu'ils ont gagné quand même? Est-ce que le PSG a gagné, là, de Chilio?
Les deux ont gagné. Peu, hein. Non, mais les deux ont gagné. Parce que c'est deux joueurs qu'il faut relancer.
Alors, les deux ont besoin de se relancer, je suis d'accord. La différence, c'est... Il n'y a même pas une énorme différence, parce que De Chilio, mais il y a beaucoup d'années, quand il était au Milan, au début de sa carrière,
il était très fort.
On considérait lui comme un joueur d'avenir. Après, c'est un peu perdu, mais il est toujours resté dans l'élite, un peu comme Kurzawa, qui dans les années à Monaco, on considérait lui comme l'avenir au poste d'arrière-gauche dans l'équipe de France et pour la sélection et pour le PSG quand il est arrivé, on considérait
exactement
beaucoup. Les deux sont aujourd'hui dans un environnement qui n'est pas fait pour eux. Ouais. Kurzawa a besoin de sortir de Paris, probablement, et Deschamps a besoin d'aller
c'est gagnant-gagnant,
dans un endroit plus pétillant.
Actuellement, il a besoin de sortir, Kurzawa, à Paris. Et...
Non, c'est fini, ça. C'était vrai un moment. Franchement.
Pardon.
Ah.
Je pense surtout que
c'est chronique, mais... Si.
Simone, merci. Arrive pour être les remplaçants de Alexandro. Il n'y aura pas énormément de pression sur lui. Et avec Sarri qui est très 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 strict sur la phase défensive, il a beaucoup à prendre. Et ça peut être bon pour la Juve.
Merci beaucoup Simone. Excellent soir à toi. Paulo Breitner est avec nous.
Délivre-nous du mal, Paulo.
Bonsoir Nico, je suis à ton extrême gauche.
Ouais, mais alors. Non, je veux pas dire. Salut, Paulo.
Bonsoir tout le monde.
Ok, donc, pas mal de choses à. Il m'a fait toujours le dire. Non, mais j'allais parler de mes opinions politiques aussi, mais non, en fait. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle.
On
les connaît.
Je n'ai rien dit.
Paulo, le Bayern. Alors, j'allais dire étincelant, je vais être très honnête avec toi, j'ai pas eu le temps de voir le match, parce qu'on était dans le multiplex de Ligue 1 notamment. Ce Bayern s'est imposé assez nettement, très nettement. Qu'est-ce qu'il y a à redire de ce match-là? Pas grand-chose, à part qu'on a retrouvé encore une fois un grand Thomas Müller.
Bah, Thomas Müller, depuis que Hansi Flick a été nommé, Thomas Müller a retrouvé sa place de titulaire et c'est quasiment le meilleur joueur à chaque match du Bayern Munich. Ah, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la saison, je dis que Schalke 04 est un peu en sur-régime et d'ailleurs ce match-là, elle l'a prouvé, et notamment leur gardien Schubert qui a été très 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 plus que moyen pour ne pas dire mauvais.
Qui en a pris 5, ouais.
Et surtout, c'est la meilleure performance du Bayern Munich depuis le début de la saison et de loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le relier au match du Hertha Berlin, c'est ce temps deux équipes, Schalke et le Hertha Berlin, qui sont sûrement les deux équipes les plus physiques de Bundesliga et qui c'est très compact, c'est un jeu très serré, etc. Où il manque un petit peu de talent. On sait que Schalke 04 a besoin d'investissement et ils sont pour moi un peu trop haut au classement en ce moment. En tout cas, c'est une bonne surprise et les deux équipes ont finalement complètement explosé au bout d'un moment, ce que n'arrive pas à faire le club de Leipzig, par exemple. C'est intéressant parce que le Bayern commence à faire comprendre à Leipzig que s'ils veulent jouer dans la cour des grands, va falloir week-end après week-end accumuler les points. Et là, le Bayern, je vois Thomas Müller qui envoie des pics à longueur de temps sur Leipzig. Il sait très bien le faire. Lewandowski, évidemment, est à très bon niveau. Thiago est enfin en train de revenir, mais peut-être parce qu'il joue en 8 aujourd'hui, alors que Kimmich est revenu en 6. Toutes ces choses-là fait qu'il y a des blessés qui reviennent aussi. Donc, très peu de Français titulaires, seulement Pavard aujourd'hui. Et encore, ça risque d'être compliqué pour
lui. Il en est où, Lucas?
Lui, c'est pas avant en février. S'il arrive en mars, okay. Ça sera déjà assez extraordinaire. N'oublions pas que ça risque d'être compliqué pour Pavard dans les prochaines semaines, puisque il y a le fameux Odrio Zola, vous savez, prêté par le Real Madrid. Flick vous a absolument un air droit, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. J'ai le sentiment pour les Français, y compris Kingsley Coman qui est encore blessé. Aujourd'hui, les joueurs en forme, c'est Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski, etc.
Paulo Pavard, il a été pris pour la rotation, pour être remplaçant.
C'est un couteau suisse. Ouais. C'est un couteau suisse, mais en fait, il y a eu tellement de blessés, il s'est passé tellement de choses depuis. N'oublions pas que le Bayern Munich joue sans sa défense centrale théorique.
Lucas
Hernandez et Zule. Donc, il a dépanné dans tous les sens, il était là, il peut jouer un peu partout, donc c'est utile.
Ah, ça sert beaucoup à un entraîneur, hein.
Ah, bah, ça, moi, j'en suis intimement persuadé, mais ensuite, il faut voir s'il a vraiment progressé.
Non.
Moi, j'en suis pas persuadé. Il a commis énormément de boulettes. Alors, bien sûr, il met quelques buts de temps en temps, donc ça permet de masquer beaucoup de choses. Moi, je suis pas impressionné par Pavard, mais je l'étais pas non plus à Stuttgart. Donc, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est le Bayern Munich, la façon dont ils font exploser très très rapidement des équipes qui sont supposées jouer très serrées, très compactes entre eux et qui imposent physiquement. Et là, le Bayern est au-dessus.
Je suis content, Paulo, de ce que tu nous dis, de savoir que le Ballon d'Or moral 2014 revient à son niveau. Tout le monde pensait qu'il était cramé, mais je reste persuadé que ça reste un très 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 grand joueur.
Ah, mais Thomas Müller,
c'est mon joueur préféré en activité, mais.
Le système faisant qu'un joueur comme Thomas Müller n'aura jamais le ballon d'or, puisqu'on favorise les performances individuelles à longueur de temps, je voudrais pas revenir sur le cas Ribéry en 2013, mais c'est exactement la même chose. Thomas Müller est un joueur exceptionnel, c'est quelqu'un
qui aurait dû l'avoir en 2014.
Ouais, peut-être, mais moi c'est l'ensemble de sa carrière ce que je vois et ce qu'il fait, parce qu'il est quand même très atypique dans le milieu des attaquants ou 9,5, mais en fait il peut jouer partout et surtout là à 30 ans, si tu veux, il n'avait pas fait grand chose depuis 2016, il est en train de revenir, vraiment intéressant ce qui se passe. Et surtout, juste une chose, les commentateurs en Allemagne sont en train de se dire que ce Bayern-là, donc on a beaucoup critiqué, l'oublions pas, les 6 premiers mois, notamment avec le départ forcé de Nico Kovac par Thomas Müller notamment aussi, grâce à Thomas Müller notamment aussi, on est en train de le comparer à ce. Mais c'est marrant dans ce Bayern qui est en train de revenir en deuxième partie de saison là. On sent qu'il y a du Jupp Heynckes dans cette équipe là. Et comme par hasard, avec qui Hansi Flick discute souvent, c'est Jupp Heynckes, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont en train de. Donc, j'ai pas envie de dire que le Bayern pourrait être la grande surprise de la deuxième partie de saison.
Il faut qu'ils récupèrent leur défense pour la Ligue des Champions.
Alors on me dit une source bien informée, une info pavard, effectivement, on nous dit qu'il va jouer dans l'axe. C'est pour ça qu'on a recruté un arrière droit, un latéral droit au Bayern, hein, Polo, non ? C'est pas ça ? C'est pour le remettre dans l'axe à terme.
Ouais, mais le problème, c'est que ça ferait Alaba, Pavard, c'est un peu léger, je trouve. Boateng, il est là. On verra. Non, je dis pas qu'il va pas jouer, hein, mais le problème, c'est que de toute façon, il n'est pas dans le 11 titulaire au départ. Faut pas se leurrer.
Ça, c'est sûr. Le Bayern, alors, est-ce que le Bayern va dérouler en deuxième partie de saison ? On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient à un point du RB Leipzig. Tranquillement, mais sûrement, parce que le RB a perdu 1-0. C'est loin d'être infamant, hein, sur la pelouse de l'Eintracht.
Ouais, alors c'est pas infamant, parce que Francfort, c'est quand même 250 millions de budget cette saison. C'était 200 millions réalisés la dernière. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il faut faire des comparatifs. Francfort a changé complètement de système de jeu lors des matchs retour. Ils sont passés en une défense à 4, pareil à l'image de Schalke et d'autres équipes comme Wolfsburg, beaucoup plus solide. Et en fait, en première mi-temps, Leipzig a largement dominé le match, et notamment Kunku était sûrement le meilleur Leipziger sur place et sur le terrain, et il ne marque pas. Et finalement, on a Francfort qui revient en seconde partie en seconde mi-temps et qui finalement commence à dérouler, marque un but, et là tu te rends compte finalement que Leipzig, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir leur niveau qu'ils avaient l'année dernière. N'oublions pas que c'est une fin de saison, c'est une fin de série de 9 matchs à la suite avec 3 buts minimum qu'ils ont mis à leurs adversaires.
Mais il y en a un qui va les aider un peu, juste, c'est quand même Olmo.
Il faut l'intégrer, encore une fois. Mais c'est pas un problème d'effectif, encore une fois, c'est un problème mental. Nagelsmann a fait une des déclarations après match où il était en colère, comme jamais je l'ai vu. Il a fait comprendre à ses joueurs, soit vous êtes des petits joueurs, soit vous êtes des grands joueurs. Moi, je veux le titre, en gros. Et si vous n'êtes pas capable, on va se mettre à une table tout de suite, on va discuter, on va boire de la bière, mais on finit les 4 premiers du championnat. Si c'est que ça qui vous suffit pour votre carrière, c'est très bien. Moi, je veux le titre. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Il dit, parce que dans 2 journées, il y a Bayern Leipzig. Et donc, on est vraiment dans un coach qui veut le titre. Et il est juste en train de dire à ses joueurs, écoutez, les gars, vous devez vous bouger un petit peu plus parce que là, c'est le Bayern en face. Donc, on peut y aller. Mais il va falloir. Et donc, il va éliminer au fur et à mesure. Ça veut dire ça. Parce que le c'est compliqué, la concurrence à Leipzig. Et encore une fois, Nkunku titulaire à la place de Forsberg. Schick a été moyen. Timo Werner a tout raté alors qu'il mettait un doublé le week-end dernier. Non, on a une deuxième partie de saison qui s'annonce assez passionnante. J'en suis intimement persuadé.
Merci beaucoup, Polo.